Vous écoutez
RMC. RMC Rotten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi toute la saison, le multiplex nous a servi à lancer toutes les journées de Ligue 1avec nos correspondants en région, donner toutes les infos sur chaque journée. Et bien là, en période de mercato, il y a aussi plein d'infos. Donc on va tous les accueillir. On commence par Bordeaux.
Allez, oui.
Nicolas Paul Orti.
Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Je comprends pas. Alors les joueurs de Ligue 1 sont en vacances, mais nous on bosse.
Bah bien sûr.
Pas content ou pas?
Non, mais j'ai pas dit que j'étais.
Lui, il est pas content d'être dans Rotterdam.
C'est incroyable, quand même. Non, mais c'est fou, quand même. Alors que
lui, il a une confiance.
Tout le monde veut le faire. Ah ouais, t'as raison. Là, on entend une des références.
Mais non, mais je voulais profiter de mes vacances pour m'affûter. Comme ça, en début de saison, Jérôme, tu reverrais ta position par rapport à ma silhouette.
Mais tu vas aller où en vacances, Nico?
Eh ben, je vais aller en Corse, figure-toi.
Ah, je vais en Corse. C'est pas là-bas que tu vas t'affûter.
Ouais, c'est pas sûr.
Le saucisson.
Non mais là où t'as raison Jérôme, c'est que tous les correspondants se battent pour faire Rotten Régal et lui se plaint.
On a déjà entendu.
On n'a pas pris les 4 qui bossaient aujourd'hui par exemple. On a fait un vrai tri.
Absolument pas.
Alors donc on a entendu Edouard G également.
Ah ouais Edouard. Salut Dudu.
Salut Edouard.
Mais moi mon championnat n'est pas terminé. J'ai encore un match des filles de l'OL ce soir.
Ah, c'est vrai. Dénouement pour la D1 féminine ce soir.
Ça peut être terrible pour Lyon encore là.
Eh ben voilà, oui. Normalement c'est perdu, a priori.
Normalement c'est perdu. Si le PSG rate le titre là, ouais. Là,
on en dira un mot tout à l'heure. Pierre-Yves Leroux est également avec nous, notre correspondant dans l'Ouest, pour parler de Nantes-Rennes. Salut Pierre-Yves.
Bonjour, je suis outré par les propos de Nicolas.
Ah, oui. Ah, mais merci Pierre-Yves.
Oh les faillots, on n'en peut plus de ces faillots.
T'en fais pas, il n'est pas prêt de revenir.
Et puis alors attention, lui il fait sa première dans un multiplex. Et en même temps on ne pouvait pas finir une saison de multiplex de Rotten Régal sans la Normandie. Christophe Lécuyer est avec nous, salut Christophe.
Salut les gars, bonjour Christophe.
T'as vu le plein d'œil?
Mais ouais, moi c'est un vrai plaisir d'être avec Jérôme, c'est les grandes années cannaises, donc forcément je suis heureux d'être ici.
Exactement.
Bien sûr. Un nouvel entraîneur pour quand?
C'est autre chose que Paul Le Guen que tu t'es tapé toute l'année.
Mais c'est quoi, on va en parler de Paul Le Guen aussi avec Christophe dans un instant. Bon, on va faire quand?
On l'embrasse, Paul.
Voilà, bon, on l'embrasse, bien sûr.
On l'embrasse avec Yves.
Vous savez qu'à 18h, on a réussi à se fâcher avec 3 personnes en 30 secondes. Hein.
Non, mais moi, Yves et Paul, franchement.
Ah oui, il n'y avait pas d'ironie là.
Non.
Pas comme avec.
Non, je pensais qu'il allait signer une Real après le PSG parce qu'on l'avait quand même mis sur un piédestal. Oui, en fait, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas joué à grand chose, je crois.
Ça va peut-être se faire, hein, on sait jamais.
Et on y va. On commence par Lyon. Sans moyens, puisqu'il n'y a pas de Ligue des Champions, Lyon va-t-il réussir à se réinventer? Edouard, il faut se préparer à un mercato à la diète.
Ouais, je vais déjà vous donner 2-3 chiffres pour que vous repériez un petit peu tout ça. C'est écrit noir sur blanc dans les comptes arrêtés au 30 mars dernier sur les 9 des 12 mois en cours. 135 millions dus à la pandémie en moins de chiffre d'affaires, plus le manque à gagner de Media Pro. Et l'année dernière, par exemple, l'absence de Coupe d'Europe, c'était 73 millions d'euros. Donc certes, cette année, il y aura l'Europa League, mais c'est un quart de ce qu'aurait pu amener la Ligue des Champions. Et en sachant que même à ce moment-là, au mois de mars, l'OL, on disait, alors que la distribution des prix et des places n'étaient pas encore faites, qu'il fallait serrer la ceinture. Donc vous imaginez avec seulement l'Europa League. Du coup, eh bien, les premiers coups qu'on en a eu à Lyon donnent le tempo de ce qui va se passer. C'est l'arrivée de Damien Da Silva, pas d'indemnité de transfert, juste le salaire. Et ensuite, Enrique Silva, c'est un latéral gauche venant de Vasco de Gama, lui aussi est libre, un latéral tonique comme on dit. Voilà les pistes travaillées et ça donne une idée de ce qui va se passer cet été. Donc il va falloir recruter absolument pas cher et puis recruter malin. Ensuite il va falloir gérer les prêts parce que Joachim Andersen va revenir. Alors cette semaine on dit qu'on a lu la presse danoise qui nous évoque un intérêt de Tottenham à 30 millions d'euros. Il y aura Jean Lucas, il y a Jeffrey Adelaide, il y aura Moussa Dembélé, voilà pour tous les prêts à gérer. Quid de Mattia Deschilio aussi qui était prêté cette année, va-t-il retourner en Italie? Puis du coup on va faire peut-être comme dans les années 2014, 2015, 2017 même, et bien l'Académie avec Cacré, Cherki, un degré moins, Diomandé, ceux qui ont marqué des points cette année, et puis Melvin Barr qui va peut-être émerger l'année prochaine, et puis Peter Bosz, ce sera à lui de jeter un œil sur les nouveautés du centre de formation. Malo Gusto qui aujourd'hui tient un jeune qui a prolongé jusqu'en 2024. Voilà, ça donne vraiment la feuille de route des Lyonnais. On prolonge déjà, on va faire avec l'Académie, et puis éventuellement, s'il y a un petit coup à faire, mais ça sera vraiment pas cher, eh bien on va piocher dans les fonds propres, près de 180 millions d'euros, mais ça va être.
Edouard, il y a quelque chose qui me chagrine, moi. Quand j'entends Jean-Michel Aulas, j'ai l'impression qu'il y a des moyens. Et en fait, tu nous expliques très clairement que Lyon n'a pas les moyens aujourd'hui de recruter des joueurs qui vont lui faire passer un cap ou pour espérer lutter pour le titre et une place en Ligue des Champions. C'est ça qui est fou. Pourquoi Jean-Michel Aulas ne communique pas de la sorte?
Bah, en fait, il communique sur, par exemple, quand on lit le dernier compte rendu économique du mois de mars, sur la future salle qui va être faite pas très loin d'OL Valley, là où mardi d'ailleurs, mercredi va être inauguré tout le complexe avec des restaurants, des paddles, une vague, un hôtel, etc. Beaucoup de commerces aussi de restaurants. Donc ça, c'est tout l'aspect construction et on va parler encore sûrement des 140 millions à terme mis pour créer la salle. Et faut pas mélanger ces sommes qui sont de l'investissement dans des choses concrètes pour les infrastructures, pour la marque OL, et puis dans le sportif. Dans le sportif, clairement, il va falloir recruter malin. Et c'est chose faite déjà avec Damien Da Silva, mais sans indemnité de transfert, ou Enrique Silva, le Brésilien.
Mais en fait, ouais, c'est plus la phrase, alors sans parler de moyens, qui mettent l'argent ou pas, et comme tu l'as dit, y a aussi des objectifs ailleurs, la construction de cette salle, comme tu le dis, des dépenses, mais quand tu tiens un discours du genre on aura les moyens de nos ambitions.
Il avait parlé de 156 millions, quelque chose comme ça.
Des fonds propres.
156
en fait.
Millions de fonds propres, voilà.
Voilà, ouais. Donc éventuellement avec ça, c'est comme on a une petite bourse, une petite tirelire, éventuellement si on veut se faire une folie, on va piocher là-dedans. D'accord. Mais c'est en ça qu'il faut comprendre un petit peu les chiffres, mais clairement. Non,
parce que tu as besoin de recruter passé, quand même, parce que tu as raison de nous faire un état des lieux du collectif l'année prochaine, du moins des joueurs qui seront là. Mais tu as quand même perdu ton meilleur joueur, Memphis Depay. Donc si t'es pas capable de recruter un joueur, alors je dis pas qu'il faut prendre le copier-coller que Memphis Depay, mais Lyon aujourd'hui a une place forte dans le championnat de France et que pour avoir vécu dans ces gros clubs qui ont des ambitions, si à la base ton recrutement il est pas intelligent et il est pas mis avec des joueurs d'expérience et de qualité, mais tu passeras jamais. Tu n'y arriveras jamais à rattraper le retard sur le Monaco, sur Paris, voire sur Lille.
Ouais, mais c'est pour ça que quelque part cette Europa League, alors certes économiquement parlant c'est pas les millions de la Ligue des Champions, hein, un quart de ce, voilà, clairement les droits de l'UEFA c'est un quart de la Ligue des Champions, mais je peux vous dire que certains formateurs à l'OL ou même des joueurs se disent c'est peut-être pas plus mal de commencer par une petite carrière en Europa League. Et d'ailleurs souvenez-vous, Rémi Garde avait commencé comme ça avec un certain nombre de joueurs, et en 2017 la demi-finale face à l'Ajax, il y a 7 joueurs du centre de formation dans cette équipe. Mais c'est vrai que ça prend du temps
pour, Captain, il y a besoin d'une star ou de joueurs du calibre de Depay.
Il y a besoin de renfort, et puis avec tous les prêts qui vont revenir à la maison, il va y avoir quand même une augmentation de la masse salariale conséquente, à moins qu'ils puissent s'en débarrasser. Moi je reste baba quand on m'annonce Andersen à Tottenham pour 30 millions. Je dis
il a fait une grosse saison à Fulham, ils sont descendus.
Oui, les recruteurs de Tottenham qui se sont plantés cette année continuent sur la même voie. Et bon, donc je veux bien qu'on fasse des annonces de ce type-là, mais entre la réalité et la théorie, enfin la pratique et la théorie, il y a un pas que je n'arrive pas à combler. Il y a du côté de Lyon urgence à dégraisser cet effectif et à le renforcer comme il faut. Quand Jérôme me dit Depay s'en va, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Il va falloir quand même avoir, comme tu as dit, recruter malin. Quand tu dis recruter malin,
c'est pas bon signe.
Ça veut dire c'est pas bon signe. Ça, c'est,
allez, on laisse Lyon de côté et on passe
à
l'une des infos de la journée. C'est donc la présentation officielle de Stéphane Moulin, qui après 10 ans à Angers est le nouvel entraîneur de Caen. Alors est-ce que vous comprenez ce choix de Stéphane Moulin de retourner en Ligue 2, lui qui joue en Ligue 1 depuis, qui entraîne en Ligue 1 depuis un moment. Il a tout expliqué très clairement, hein, Christophe. Il a mis en avant l'aventure humaine.
Ouais, complètement. C'est principalement ça qui a guidé son choix, a-t-il dit donc ce midi lors de sa présentation officielle, présentation à laquelle assistaient d'ailleurs beaucoup de journalistes. On n'avait pas vu autant Adornano depuis la Ligue 1, hein, c'est dire.
Ouais, depuis mon retour, je pense.
C'est ce que j'avais envie de dire aussi, effectivement, Jérôme. Le projet humain, premier argument qui a guidé donc le choix de Stéphane Moulin, devant le challenge sportif, parce qu'il a évoqué un vrai challenge que de venir ici à Caen pour refaire monter le club en Ligue 1. Et puis en troisième argument, il a cité sa volonté de faire profiter le club normand de son expérience. Mais vraiment, le facteur humain a joué, c'est clair. L'idée, c'est de retrouver un homme qui a beaucoup compté pour lui. Le président, Olivier Piqueux, celui qui donc occupe aujourd'hui le poste de président du Stade Malherbe de Caen, c'est lui qui avait confié les rênes de l'équipe première du SCO d'Angers à l'époque à Stéphane Moulin.
Jérôme, tu comprends ce choix, toi, de Moulin ?
Oui, je comprends. Moi, j'aime bien Olivier Piqueux. Je trouve que, déjà, par rapport à ce qu'il a fait à Angers, parce que c'était remarquable, ça s'est mal fini et c'est tant pis pour Angers, hein, je vais te dire, parce que lui, je le sais de source sûre qu'il en a souffert aussi de cette séparation. Il a su se relancer à Caen, un club qui lui est très cher. Je pense que quand tu mets aussi l'aspect sentimental dans un projet comme ça, bah, tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, et c'est ce qu'il a fait. Il est passé pas loin de la catastrophe cette année, hein, il faut reconnaître, hein, et Christophe, il le sait.
Mais pourquoi ça n'a pas marché, Jérôme?
Pourquoi? Parce que... On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un problème d'entraîneur déjà dans la façon de manager ce groupe-là et surtout de les entraîner parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Se couper du centre de formation à Caen, qui a toujours été un centre de formation de qualité, et je dis pas ça parce que je suis sorti de là-bas, mais c'est le cas, qui est un très beau centre de formation. Je pense que tout ça, il y a eu plein d'erreurs. Ils sont passés vraiment tout près de la catastrophe.
À quelques minutes près.
Et ouais, sur un pénalty à la dernière minute. Et là, il va avoir le temps de reconstruire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est le challenge. Il est intéressant pour Stéphane Moulin. Parce que bien sûr qu'il aurait pu rester en Ligue 1. Mais est-ce que c'est plus intéressant pour lui d'être à la base d'un projet comme Caen, qui est quand même un club bien structuré, avec des infrastructures dignes d'un club de Ligue 1, et puis une ville qui est aussi très foot, que d'aller dans un club pour jouer les derniers rôles en Ligue 1, qui est certainement moins structuré que Caen? Bah moi je pense que c'est un bon choix, et puis en plus on va lui laisser le temps, parce que Olivier Piqueux va pas lui mettre l'année là coup près, si tu montes pas tu dégages. Je pense qu'il est sur plusieurs années, Caen doit se réinstaller une place assez forte du championnat de France.
Dans une seconde, le multiplex spécial Mercato se poursuit. Alors les Mercato à Nantes et Bordeaux sont un peu bloqués à cause notamment de certaines incertitudes sur les reprises.
Il y a pas de chocha, il y a pas de sous.
Et puis alors il y a des gens qui veulent reprendre et qu'on n'a pas envie à Bordeaux.
Exactement, on en parle dans un instant. Le multiplex de Roten Régal se poursuit, à tout de suite.
RMC 18h-20h Roten Régal. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h16 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez Jean-Louis, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On a eu une petite courte page de pub pour payer le salaire de Jean-Michel.
Bien sûr.
Donc là on est reparti pour le multiplex.
Il y aura le multiplex européen à 19h30, avec notamment en direct Espagne-Portugal, que l'on suivra, match de préparation à une semaine du début de l'Euro. On est dans le multiplex Ligue 1 avec nos correspondants Pierre-Yves Leroux, Édouard G, Christophe Lécuyer et Nicolas Paolorsi. D'ailleurs dans le tour des stades dans un instant, il sera question de Saint-Étienne, de la reprise à Bordeaux, d'Enzonzi et du Havre. Donc restez bien à l'écoute. Mais on va donc parler de Bordeaux.
Qu'est-ce qu'il fout là,
Enzonzi? Tu verras. Bordeaux, donc, Nicolas. Oui. Donc, on laisse de côté l'avenir du club, le rachat. Il y a quelques projets qui ont été retenus. On attend le dénouement d'ici une semaine. Mais en attendant, Nico, ça bosse donc sur l'effectif.
Ben oui, enfin, du moins, on ne sait pas quels seront les moyens des dirigeants bordelais l'année prochaine et de ce que voudra faire le repreneur. Mais par contre, on bosse sur l'effectif actuel. C'est-à-dire qu'Alain Roche est encore aux manettes avec King Street. Et du coup, on s'est séparé de plusieurs joueurs. Alors, je vous ai un peu caché cette information, je l'avoue, parce que j'avais peur que vous... j'avais peur que vous
ne
tombiez
pas continuer. Non.
Exactement, Captain. Ben Arfa ne va pas continuer avec les Girondins.
Les mauvaises nouvelles s'accumulent.
C'est surprenant. Hein.
Mais pourquoi?
C'est surprenant. Alors, Alain Roche a fait une interview chez nos confrères de Sud-Ouest et il a dit qu'il n'avait pas répondu à certains critères sportifs. Ouais. Donc voilà, non, mais je vous rappelle... Alors déjà, Ben Arfa avait un contrat 1+1 avec une option à activer qui engendrait une augmentation de salaire assez conséquente. Donc bien évidemment, vu la situation économique des Girondins, c'était compliqué de le faire.
Ça, c'est un choix fort d'Alain quand même, hein, de ne pas le prolonger.
Ouais, c'est un choix à faire. Et puis je vous rappelle les stats de Ben Arfa.
Non, on ne nous rappelle pas les stats, passe à autre chose. Non, parce qu'on ne va pas faire une heure sur Ben Arfa. Bon. Tu nous as fait une saison déjà sur lui.
On peut dire, Jean-Louis et Jean-Michel, que c'est un gros choix d'Alain Roche. Là, il s'est engagé. Il y en a d'autres quand même. Il y a quoi alors
comme disait l'autre, il a vraiment tranché dans le vif.
Ah oui.
Non, mais c'est un véritable échec, Ben Arfa. Bon, en tout cas, c'est un véritable échec. Oui, et même, ouais, dans le vestiaire, ça aurait été
une cause. Nous, on te le dit, c'est une saison.
Ce serait plus rapide que tu nous évoques les succès plutôt que les échecs.
Là, ça va aller très vite.
Le succès, c'est la première demi-heure à Bordeaux. Voilà, qu'il a fait sur le match au mois d'octobre.
C'est vrai, contre Brest, il doit mettre un but aussi.
Ouais, ah ouais.
Non, mais sur ses 11 premiers matchs, il met 2 buts et il fait 5 passes décisives.
Bon, allez, arrête, tu m'énerves avec Ben Arfa, passe à autre chose. Allez.
Bon, alors, Youssouf Sabali, le latéral droit sénégalais, qui est probablement un des meilleurs joueurs des Girondins cette saison, si ce n'est le meilleur joueur des Girondins cette saison, n'a pas été prolongé. Sabali. Pourtant, le club lui a fait une offre, lui, il a fait le choix de ne pas continuer.
Non, je plaisante pas, c'est vrai.
Non, non, mais sérieusement, Youssouf Sabali, pour le coup, ça a été un joueur régulier qui a été à son niveau. Alors il a eu des petits pépins physiques en début de saison, mais pour le coup le club lui a proposé une prolongation, lui a refusé, il a envie de se relancer avec un autre projet sportif. Nicolas Depréville également, lui c'est un gros échec, hein. Nicolas Depréville qui fait partie des plus grosses recrues de l'histoire du club.
Il a l'air
Si je dis chaque nom bloqué, on va jamais s'en sortir là.
Non, je crois qu'il est sur les tablettes.
Moi, je veux
il va peut-être retourner à Istres apparemment.
Écoute, je sais pas. Il a pas de. Alors, on parlait beaucoup de lui à Nantes, notamment au mois de janvier. Il a pas trop de pistes. Il se laisse le temps, Nicolas Depréville.
Bah,
en tout cas, cette saison, c'est un seul petit but contre Dijon. Et c'est un joueur qui a joué. Hein. Il a pas été cantonné au banc de touche.
Bon courage, Nico.
Par contre, j'ai une info mercato. Tu l'as pas celle-là?
Vas-y.
Laurent Koscielny au musée.
Alors Laurent Koscielny a envie de jouer. Il se voit encore joueur l'année prochaine. Tu fais bien d'en parler, Jérôme, parce qu'il se voit encore joueur. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, parce que vous me coupez tout le temps là, je suis perdu.
Il y a
potentiellement un nom qui était suivi par King Street, mais avant l'annonce du retrait de King Street pour remplacer Sabali, c'est le latéral droit que Edouard connaît bien de Grenoble, Jordi Gaspard, qui a 24 ans, qui est pisté par pas mal de clubs, hein, de Ligue 1. Donc voilà, ça faisait partie des pistes évoquées. Sinon, quelques joueurs qui n'ont pas été prolongés non plus, Jovanovic. Bon, je sais même pas si vous saviez que Jovanovic jouait à Bordeaux.
Si, non, même, je vois pour qui.
Il était dans la Réunion.
C'est vrai qu'il était présent. Il a absolument pas joué cette saison, à part en Coupe de France. Et Maxime Pungé également, qui est un enfant du club, qui a joué les derniers matchs et qui a été important sur les derniers matchs au moment où Bordeaux a dû se sauver. Pungé n'est pas prolongé, donc voilà un petit peu.
Merci Nico pour ce tour d'horizon.
Ça vous a passionné. Je sens que ça vous a passionné.
Non, c'était bien. Merci beaucoup Nico.
King City est toujours là. Ils ont prolongé King City.
Ils ont obtenu les deux meilleurs joueurs donc de l'année, c'est Sabali et Pungé sur les derniers matchs. Voilà.
C'est pas faux. Sur les derniers matchs, c'est pas faux.
On va basculer sur Nantes. Donc, Pierre-Yves, aujourd'hui il y avait présentation.
Non, on veut pas des joueurs de Bordeaux.
Il a essayé de te l'enfourguer là.
Non, bah, merci. Il y a un directeur sportif, Moti Bayat, qui gère tout. Il n'y a pas de souci.
Ça, pour tout gérer, il gère tout. Hein. Bon, ça, alors, on lui fait confiance.
Hein. Présentation aujourd'hui du collectif nantais, Pierre-Yves. Raconte-nous.
Exactement. Ça sera donc le
collectif mené par Mickaël Landreau.
Bon. Alors, Mickaël Landreau.
Oui, laissez-le expliquer clairement.
Parce que là, c'est la révolution avec Mickaël Landreau.
On ne peut pas en placer une. Alors, c'est une société dont le billet d'entrée est fixé à 100 000 euros. C'est une initiative qui est lancée par Philippe Plantif. Pas par Mickaël Landreau, par Philippe Plantif, qui est PDG d'une société qui s'appelle Proginov, qui est un sponsor actuel du FC Nantes et qui a envie de réunir un maximum de partenaires locaux. C'est une initiative sur le territoire et puis des fonds. Donc, il y a déjà un peu plus de 2,5 millions qui ont été déjà réunis afin de se poser, alors non pas en repreneur du club, mais en acteur potentiel. Vous n'allez pas racheter le club avec 3 millions d'euros. Hein. En revanche, avec 20, vous pouvez entrer au capital s'il y a un gros investisseur qui arrive aux côtés de ce collectif, par exemple. Et puis la caution sportive, effectivement, elle est apportée par l'ancien capitaine des Canaries, Mickaël Landreau, qui est très attaché à ce qu'il a...
Mickaël peut les mettre, les 20, hein, parce qu'il ne dépassait pas un centime avec nous.
Il n'a pas mis les 20, un café, mais en tout cas... Écoute, il a mis en tout cas déjà avec les anciens comme Nicolas Gillet, comme Frédéric Darrocha, Nicolas Savino, et ils sont en tout cas Rion, dans ce projet. Non, pas Patrice. Oui. Christophe Pignol, par exemple, aussi.
Excusez-moi, pardon de t'interrompre, Pierre-Yves, mais vous vous êtes fixé un chiffre avec Jean-Michel, nombre de personnes avec qui vous fâchez dans l'émission depuis 18h.
Pourquoi ?
Mais là, vous êtes inferno tous les deux.
Mais moi, sur Bordeaux, je suis wanted. Hein. Fait un an que plus personne ne me parlait à cause
de vous. Non, arrête-toi, c'est pas vrai.
Je pense que Michael, il sait que Jérôme l'aime bien de tout.
Mais oui, non, mais moi je le chambre.
Bien sûr, tout ça n'est que du chambrage.
Mais attends, j'ai perdu mon permis, il m'a emmené à l'entraînement, Mika, bien sûr.
Ah bah oui, merci.
Il y a du chambrage. Il paye l'essence déjà.
C'est ce que j'allais dire, il paye l'essence.
Eh ben, détrompe-toi, j'étais obligé de lui faire un chèque. Je faisais 50-50. Et le péage, 2 euros pour y aller, à chaque fois je devais donner 1 euro.
Sachez en tout cas, messieurs, que les moteurs donc, de ce collectif ont été très attentifs aussi à ce qui s'est passé à Bordeaux avec un fonds d'investissement, on l'a vu, totalement hors sol qui échoue.
Mais arrêtez.
Non mais c'est vrai, le nom de Bordeaux a été souvent donné en exemple aujourd'hui pour essayer d'être avec
des choses
plus ancrées dans le territoire. Et le discours de Michael Landreau, c'est notre responsabilité, c'est de faire un projet cohérent. En tout cas, c'est une initiative qui est assez originale.
Alors, quelle est la finalité de ce projet alors? Donc,
justement,
on essaie de monter les 20 millions et après, qu'est-ce qu'on fait?
Un vrai pouvoir d'entrer au capital de ce club, s'il y a un gros investisseur qui veut bien être là à côté, ou éventuellement, s'il y a un investisseur qui vient amené par Valdemar Quitta, qu'il sache qu'il y a une force territoriale ici. Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est une initiative originale et je trouve qu'elle a été prise aussi de façon.
Et Quitta, il a répondu ça.
Valdemar Quitta.
Et il dit quoi à tout ça, Quitta?
Pour l'instant, il est un petit peu en opposition. Il dit, en gros, il y a pas d'argent, donc c'est bien gentil. Mais aujourd'hui, ce qui a été dit, c'est aussi Valdemar, il est intelligent, il est capable de sortir de sa posture et peut-être qu'il va voir qu'il y a quelque chose de concret, de respectueux aussi vis-à-vis de lui et pourquoi pas de réussir à le séduire.
Ok.
C'est vrai qu'on
rigole, mais
c'est bien. Je pense que c'est une bonne initiative. En plus, des anciens comme ça qui se sentent concernés, qui aiment ce club, c'est pas plus mal.
Tour des stades. Il n'y en a plus beaucoup des tours des stades dans Rotten Régal. Donc on y va. 4 infos. Et à la fin, Jérôme, tu me dis celle que tu retiens.
Mais Edouard, il le fait quand même?
Oui, il le fait, bien sûr. Ah. Il le fait sur Saint-Etienne. La vente de la SSE. Alors on en est où, Edouard?
Bah, on reste dans la lente partie d'échec, en fait, d'échange où chacun avance ses pièces. On se juge, on se sonde, document administratif après document administratif. Alors, ça va pas assez vite aux yeux des investisseurs d'Asie du Sud-Est dont je vous parle depuis une quinzaine de jours. Les esprits sont un petit peu échauffés. Les téléphones se sont raccrochés au nez et puis on s'est reparlé. Et même les élus locaux qui ont commencé à prendre langue un petit peu avec ces investisseurs parce qu'ils voudraient que ça aille un petit peu plus vite. Et les élus locaux, ils voient l'attractivité du territoire à travers une bonne ASSE. Donc voilà, on en est un petit peu là, ça avance doucement, en sachant qu'il y a un autre nom qui m'est arrivé cet après-midi. Je n'ai pas le nom du repreneur, mais le potentiel nouvel entraîneur qui serait Thiago Motta, qui ne serait pas sur ce dossier dont je vous parle depuis une quinzaine de jours. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment gratter, mais c'est un autre dossier.
Avec un des investisseurs, d'accord.
Avec un autre investisseur.
Pour l'instant, c'est toujours clôturé quand même. Voilà, très bien.
Exactement.
En parlant de vente, Bordeaux, pour les ultramarines, c'est tout sauf Kyo, Nico.
Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, on connaît des dossiers pour la reprise du club, le projet Rigaud et Williams, et le projet Didier Quillot. Le problème, c'est que les ultras ne veulent absolument pas de Didier Quillot, qu'ils ont associé à Frédéric Longuepé, très proche de la banque Rothschild. Ils estiment que il y a des connivences entre Longuepé et Quillot et la banque Rothschild pour que ce soit lui qui soit favorisé et reprenne le club.
Bon, c'est dommage. C'est très compliqué. Des bonnes choses dans le football français.
Et quand on voit en tout cas
Didier Quillot à la liste, très bien.
Non mais quand on oui. Ah non, arrêtez, parce que Didier Quillot, il faut que je lui parle quand même un peu là.
C'est vrai.
Dans les jours à venir. Ah non, je vais lui parler. Donc
c'est
arrêtez.
Vrai qu'il est pas responsable de l'arrivée des Américains en France.
Bon, allez, vas-y Nico.
Et en tout cas, non. Qu'est-ce que je voulais vous dire en terminant? Oui, quand on voit ce que ça a donné le conflit ouvert entre Longuepé et les ultras, on se dit que pour le futur repreneur du club, il faudrait quand même essayer d'avoir les ultras dans la poche parce que c'est très très compliqué sinon de cohabiter.
Une info Mercato à Rennes sur l'avenir d'Enzonzi, Pierre-Yves. Ah.
Ben oui, ça discute toujours au sujet de son avenir, puisque le club est toujours en discussion avec l'AS Roma, qui a prêté, vous le savez, l'international français afin de le conserver dans l'effectif. Il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit un transfert immédiat qui est évalué à 7 millions d'euros, ou la prolongation d'une saison du prêt avec une obligation de rachat qui serait fixée à 3,5 millions d'euros. Et nos confrères de West France nous apprennent que Florian Maurice devrait rencontrer le joueur la semaine prochaine à ce sujet-là. Donc on en saura plus assez rapidement.
Très bien. Et dernière info. Florian Maurice, je rajoute Florian Maurice.
Elles ont dit qu'ils parlent avec Florian Maurice, t'imagines.
Et vous arrivez à avoir des invités dans cette émission.
C'est incroyable.
Ah non, ils ont dit. Non, ils ont dit non.
C'est pour Jean-Michel.
Ah oui, c'est pas moi. Moi, j'aime bien.
Et dernière info, on profite de la présence de Christophe.
Il y a statistiques sur les passants
au Havre, il ne se passe rien. Et ça t'inquiète, Christophe.
Franchement, pas l'ombre d'une recrue. Juste une prolongation cette semaine qu'on a eu à se mettre sous la dent. C'est la prolongation du vétéran, du capitaine Alex Bonnet, 34 ans, qui va effectuer sa 13e saison sous le maillot du club d'Orient. Non mais blague à part, on a vraiment du mal à comprendre où veut aller le Havre. Il y a 6 ans, au moment de sa prise de fonction, le président américain Vincent Volpe avait pourtant fixé le retour en Ligue 1 comme objectif, mais seulement voilà, depuis les saisons se suivent et se ressemblent. Et franchement messieurs, au Havre, beaucoup de supporters se demandent encore où sont passés les 12 millions d'euros du transfert de Kadewere à Lyon en janvier 2020.
Ah oui, c'est une vraie question.
Bah nous, on se demande où sont passés les supporters aussi quand le stade va rouvrir ses portes aux supporters. C'est vrai que le stade, malheureusement, au Havre, est loin d'être rempli à chaque fois.
Ah bah non, oui, ça c'est sûr. Surtout depuis un an et demi.
Jean-Louis, on n'a donc une semaine là pour se réconcilier avec tout le monde, nous, de notre côté.
Moi, j'ai noté.
On a 4 mois. Parce que...
Didier Quillot, Florian Maurice, Steven Zonzi, Comoli, Duprat, Santini,
merci
Le
Jérôme. Hein.
Pierre-Yves.
Ça va nous prendre l'année.
Quand tu nous as cité Nico Gillet, c'était une blague quand même.
Nicolas Gillet. Allez, merci messieurs. Nico Pollard, c'est Pierre-Yves Leroux, Edouard G. Christophe Bravo les gars. Dans un instant, le multiplex européen. Et merci pour votre patience. À tous. À tout de suite.
18h-20h Roten Régal. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h33, allez, la dernière ligne droite. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, toujours là, bien sûr, dans Roten Régal sur RMC. Allez, Jean-Louis, on fait multiplex européen, bien sûr.
Et on va jouer à 19h45. Donc le quiz sera là, 32-16 pour vous inscrire. Dans le multiplex européen, on va suivre avec attention Espagne-Portugal. C'est parti depuis quelques minutes. On suit le match avec Nicolas Comelli. Salut Nicolas.
Salut Jean-Louis, salut à tous. C'est parti effectivement depuis un peu moins de 3 minutes, toujours 0-0 au Wanda Metropolitano à Madrid. Et je peux vous dire qu'il fait plaisir à voir ce stade avec 15 000 supporters présents dans les tribunes. Ouais, on retrouve peu à peu, Jérôme, le foot qu'on aime. Et ça fait du coup une très jolie première pour Emeric Laporte, naturalisé espagnol il y a 3 semaines. Il est déjà titulaire ce soir dans la charnière centrale de la Roja. De l'autre côté, le Portugal évolue avec deux champions de France, José Fonte et Renato Sanchez. On surveillera aussi un minot devant qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Voilà, un peu plus de 3 minutes de jeu, 0-0 entre l'Espagne et le Portugal.
Merci Nicolas. L'Espagne, on en parle tout de suite dans le multiplex européen.
RMC, Roten Régal. Européen.
Espagne et Italie, puisqu'il y a également Italie République Tchèque ce soir. L'Italie, on va en parler avec Johan Crochet qui est avec nous, notre spécialiste du foot italien. Salut Johan.
Salut Johan.
Bonsoir messieurs.
Et on va commencer par l'Espagne avec Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Fred. Hola chicos.
L'attraction, c'est la première de la porte sur ce match.
La puerta.
Ah oui, là, oui, il faut dire.
Ah oui, en espagnol, c'est la puerta. Mais de toute façon, rappelez-vous, il y a quand même beaucoup de questionnements en France, notamment dans les médias. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, etc. Bah, il vient pour être titulaire. C'est évident que si Luis Enrique avait demandé.
Il n'est pas en club, comment il serait en sélection?
Pardon?
Il n'est pas en club, il est en sélection?
Ah, mais il va l'être. Il va l'être.
C'est dingue.
Il l'a naturalisé pour ça. Il n'y a pas vraiment de. On a vraiment l'impression que ce soir, Pau Torres et Emeric Laporte, ce sera la charnière centrale de l'Euro pour l'Espagne.
Ah ouais.
C'est ouais,
ça fait pas rêver quand même.
Ça fait pas rêver, mais c'est une jeune équipe d'Espagne. C'est une équipe. Moi, je suis persuadé que l'Espagne va pas faire grand chose. De toute façon, c'est pas le but de l'Espagne de gagner quoi que ce soit cette année. L'Espagne se prépare une nouvelle génération pour où on va pouvoir voir commencer à voir quelque chose d'intéressant au mondial. Parce que si tu regardes l'équipe de ce soir, quand tu vois les Ferran Torres, les Fabian Ruiz, les Gaia, les Pau Torres, les Marcos Llorente, Unai Simón, on est quand même dans une nouvelle génération de footballeurs. Donc, Luis Enrique a reçu un appui total du président de la fédération. Il a le temps de construire un groupe, de construire une nouvelle génération, parce que l'Espagne a eu du mal à couper le cordon avec l'équipe qui avait gagné 2-0.
Comme tout le monde. T'as dominé autant d'années, c'est normal. Hein.
Bien sûr.
J'ai une équipe qui gagne, personne ne le fait, et pas plus en Espagne qu'en France.
Il n'y a plus qu'un seul joueur de cette époque, c'est Busquets qui est titulaire ce soir, mais bon, ça sera sûrement sa dernière compétition.
Il aurait pu avoir Ramos aussi.
Bah ouais, mais sauf que Ramos, il a pas été sélectionné, quoi. C'est ça qui est, il
ça,
est,
c'est,
pas,
c'est pas incroyable, ça. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ouais. Ça fait beaucoup de problèmes ici, beaucoup de buzz.
Mais il est blessé au point de pas.
Non, il a repris.
Non, il a repris.
Non, mais justement, il a quelque chose pour ne pas être sélectionné. Enfin,
en tout cas, le médecin de la fédération a appelé le médecin du Real Madrid qui lui a dit qu'il était disponible. Sauf que Luis Enrique a des doutes sur le niveau de Ramos. C'est vrai que Ramos n'a joué que 4 matchs en 2021. Donc.
Non, mais il préfère un mec qui est remplaçant, du remplaçant à Manchester City. Bah, c'est ça qui est incroyable.
Mais Luis Enrique a tous les pouvoirs dans cette équipe.
Et qui était français il y a quelques semaines.
Il y a 3 semaines. donc, Emeric Laporte, je suis persuadé, je le disais depuis le début, qu'il est venu pour avoir un rôle important et sûrement titulaire. Ce match contre le Portugal, c'est le premier match de préparation, mais c'est aussi un match de gala. Ah oui. Donc, on fait pas n'importe quoi devant les 15 000 spectateurs
du
Metropolitano et devant une grosse équipe avec João Félix qui est dans son jardin et Cristiano Ronaldo. Et
d'ailleurs, Jérôme, tu préfères quoi ? Jouer le Portugal, faire un vrai gros match de préparation ou faire comme nous, jouer le Pays de Galles, la Bulgarie, des matchs plus d'entraînement ?
Ça, c'est la bonne question. Moi, je pense que ces matchs-là, dans toute façon, l'adversaire, tu t'en fous un peu.
Mais
c'est...
Roland, par exemple, hier, il disait, moi, je veux pas un gros match pour les matchs de préparation. Risque de blessure, etc. Ouais, c'est un match d'entraînement amélioré.
Je veux pas aller contre ce que dit Roland, mais je trouve que là, c'est n'importe quoi. Parce que quand tu es en sélection, je suis désolé, que ça soit Pays de Galles ou le Portugal, dire t'as envie de briller, t'as envie d'être bon parce que tout est épié, tout est regardé, et à partir de là, si t'es pas bon, bah ça va faire parler, ça va faire jacter. Donc vaut mieux arriver avec le plein de confiance et faire des bons matchs et tout. Oui, et donc c'est pour ça, avant de donner la parole à Jean-Michel, c'est pour ça que moi je pars du principe que les matchs test, que ça soit Pays de Galles ou Portugal, peu importe, l'essentiel c'est que toi t'arrives à répéter le football que tu veux mettre en place et redonner confiance à un groupe s'il en manque un peu. L'équipe de France elle est en pleine confiance, d'accord, elle gagne ses matchs, donc il y a pas de problème de ce côté-là.
Je vais vous raconter une petite anecdote hier ni d'avant-hier. En 1958, lorsque l'équipe de France lorsque l'équipe de France est partie en Suède pour jouer le mondial, eh bien, elle n'avait pas de match de préparation. Et on s'étonnait en France qu'elle ne puisse pas jouer contre des équipes nationales ou même contre des équipes de haut niveau en Suède. Donc, ils avaient joué contre des équipes de village. Mmh. Ils avaient gagné 12-0, 14-0. Et à la sortie, ils sont finis troisième de ce mondial. Donc, attention avec les matchs de préparation, match difficile ou match pas difficile. L'importance, quand même, c'est dès la première rencontre pour le tournoi final d'être au point. Et l'équipe de France allait montrer qu'avec des matchs bidons, elle était arrivée en troisième troisième
marche du podium,
comme dirait Luis Fernandez.
Très bien. Voilà. L'Italie face à la Tchèque.
Allez, encore un.
Ah oui, Louis,
c'est bon.
Louis
à la liste. C'est bon, Antoine a déjà le texto là. Oui. C'est bon, ça y est.
Alors l'Italie, qu'est-ce qu'on attend de ce match ce soir face à la République Tchèque, Johan?
Bah, ça va être c'est le deuxième test après le petit match d'entraînement face à Saint-Marin. Ce qu'on va attendre, c'est que Roberto Mancini a mis son équipe type ce soir. Alors, à peut-être un joueur près, parce que Berardi est aligné sur l'aile droite ce soir.
Et que
on verra
Verratti
si c'est Berardi, Bernardeschi, on verra si c'est Chiesa. Ouais, mais en fait, le problème de Verratti, c'est qu'il est out déjà pour le premier match de l'Euro contre la Turquie. Sans doute
Jérôme,
aussi pour le deuxième.
Chiesa, Jérôme, il aime pas Chiesa.
Ah si, non, pourquoi tu dis ça?
Ah bon, d'accord.
Sans doute pour le deuxième aussi, donc on risque de ne le voir que pour le troisième match. Donc après, le fait d'être 26 permet aussi ce genre de fantaisie entre guillemets, où tu te dis il est tellement important que au pire on verra comment ça va se passer. On a des joueurs pour combler en attendant son absence. Donc c'est la dernière répétition avant le match d'ouverture contre la Turquie vendredi prochain. C'est un niveau bien supérieur évidemment à Saint-Marin de la semaine passée. Donc on va s'attendre à ce que l'Italie continue sa bonne série, parce que je le rappelle, on est à 26 matchs consécutifs sans défaite à l'heure actuelle. Elle est vraiment en pleine confiance, cette équipe. On sent des joueurs qui jouent libérés avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce qu'a ramené Roberto Mancini. Son style de jeu ne bouge pas. C'est un style assez ambitieux qui demande beaucoup de courage aux joueurs. Les joueurs peuvent rater des choses, il n'y a pas de problème. Mancini va continuer à aller dans cette direction-là. Si l'Euro se passe mal, il n'y a pas de problème. Mancini, il a été prolongé jusqu'en 2026. Le projet va bien au-delà de cet Euro-là. Donc, on s'attend tout simplement à ce que l'Italie rentre tout doucement dans son Euro dès ce soir.
Et toi, tu dis le point fort, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est le milieu de terrain.
Ah ouais, mais il n'y a pas photo, honnêtement. L'Italie n'a plus trop les défenseurs d'autrefois, on va dire ça comme ça. Il y a un problème au poste de numéro 9 parce que entre Immobilier
et Belotti, ils ont toujours les défenseurs d'autrefois. C'est peut-être ça le souci.
Mais Belotti n'arrive pas à confirmer quand même. Belotti qui est
exactement Jean-Michel et Immobilier même.
21 ans avec le Taureau, il promettait énormément, il marquait beaucoup de buts et puis ça s'est un peu étiolé là. Hein.
Ouais, mais en fait, faut aussi regarder la situation du Torino, qui est une équipe en grande difficulté ces dernières saisons. Et malgré ça, pour voir beaucoup de matchs du Torino, c'est encore le seul joueur qui est capable de faire la différence, qui donne tout sur le terrain, qui lâche jamais rien. Donc, évidemment qu'on pouvait s'attendre à mieux. Il a été aussi bloqué parce que son président lui demandait des 60 millions d'euros, 80 millions d'euros, 100 millions d'euros, et que c'est très cher. Là, on verra, il lui reste un an de contrat, donc il va peut-être bouger cet été. Mais ça sera Immobilier, plutôt titulaire, sans doute à l'Euro. Et je disais, c'est le milieu de terrain parce que Immobilier ou Belotti devant, c'est toujours un peu compliqué avec la nationale. Ils font pas les mêmes prestations qu'en club. Derrière, les latéraux donnent pas des grosses garanties défensives. Bonucci, Chiellini, ils sont âgés et Bonucci fait vraiment pas une bonne saison. Chiellini a été longtemps blessé aussi.
Il est fatigué, oui.
Voilà, donc la vraie force, c'est le milieu de terrain. Barella, Jorginho, Locatelli.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix quand même. Il y a Sensi aussi. Sensi s'est blessé.
Et oui, il va sans doute être remplacé, alors c'est pas encore officiel, par Pessina, le milieu de terrain de l'Atalanta. D'accord. Mais Pessina, c'est pas mal non plus. Il y a aussi Lorenzo Pellegrini de la Roma. Il y a encore Marco Verratti derrière qui va.
Et peut revenir. Et l'attaquant là, qui est convoité par Marseille, c'est Raspadori, c'est ça?
Raspadori, oui. Alors, convoité par Marseille, ils peuvent le convoiter. Moi, j'ai entendu hier l'administrateur.
C'est ce qu'il disait. Hein.
Ouais, oui, bien sûr, l'administrateur délégué de Sassuolo a dit c'est niet, il reste avec nous. C'est un joueur qui va prendre encore plus de temps de jeu la saison prochaine. Alors, sauf s'il y a une offre de 30, 40, 50 millions d'euros, je sais pas. Hein. Mais a priori, Sassuolo veut le garder pour la saison prochaine.
Et lui, il peut pas incorporer la ligne d'attaque.
Ah, ça va être compliqué.
C'est trop juste encore.
C'est encore un peu juste, mais en même temps, c'est un profil qui peut amener de la vitesse, tu sais, en fin de match. C'est un joueur qui se déplace très très bien, qui peut amener un peu de vitesse. En plus, il est assez agile, pied droit, pied gauche. Donc, il peut aussi jouer sur un côté.
Je l'ai pas vu jouer comme toi, certainement, beaucoup de fois. Je l'ai vu jouer quelques fois avec Sassuolo. Et c'est vrai que je trouve qu'il est, il est intéressant dans ses enchaînements, dans ses déplacements.
Exactement, et en plus il peut jouer 9,5, il peut jouer 9, sorte de faux 9 parce que c'est pas vraiment un vrai 9 non plus, hein. Et il peut jouer même sur les côtés, il a déjà joué sur les côtés avec Sassuolo, donc c'est un joueur extrêmement polyvalent qui peut amener beaucoup de fraîcheur, de vitesse, etc. en cours de match.
Et même en cas d'offre un peu plus conséquente de l'OM, il n'y a aucun moyen de le récupérer, parce que pour Marseille, en fait, franchement, je pense que c'est un bon profil.
Mais Sassuolo, 50 ou 60, comment veux-tu qu'il...
Ah bon?
Mais Sassuolo, en fait, ils n'ont pas besoin de vendre parce qu'ils vont déjà sans doute perdre Locatelli qui va ramener beaucoup d'argent. Ils vont sans doute perdre Jérémy Boga qui va ramener aussi beaucoup d'argent. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de vendre.
D'accord.
Donc ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Une fois qu'ils auront vendu ces deux joueurs-là, ils peuvent dire c'est 50 millions d'euros. Et en plus, vu que Boga va partir, qu'il y aura des places devant avec Caputo qui a eu une saison compliquée, il aura du temps de jeu à Spadori. Donc même lui, je rappelle, il vient seulement de débarquer vraiment et d'exploser entre guillemets en Serie A. Donc il a besoin de temps de jeu.
Puisqu'on a cité le mercato de l'OM, je vous rajoute une info à RMC Sport aujourd'hui. Ça s'est accéléré pour Gerson, c'est quasiment ficelé. Ça devrait être annoncé très bientôt. Donc 24 ans, le milieu de terrain. L'OM le signerait pour 5 saisons jusqu'en 2026. Il y a juste un doute sur sa date d'arrivée, puisque Flamengo voudrait le garder pour faire le 8e de finale de Libertadores du mois de juillet. Donc à voir quand
Jean-Louis, s'il est aussi fort que le Gerson de 70, qu'il le prenne tout Johan de suite.
Ah, est-ce que vous voulez un mot sur Gerson? Parce que
tu l'as vu jouer
en Italie.
Alors je veux dire, il faudrait que ce soit court.
Allez, vas-y.
Très court. En fait, en Italie, on considère que c'est une météorite, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris son arrivée, qu'il a eu beaucoup de mal, mais lui-même l'a reconnu, il était trop jeune pour arriver, donc il ne faudra pas juger sur ses performances à la Roma ou à la Fiorentina où c'était vraiment très, très, très compliqué. En plus, il a été baladé de poste en poste, numéro 10, milieu de terrain, relayeur gauche, milieu devant la défense. Bref, il n'y a pas beaucoup de références en Italie, donc il a rien montré. Néanmoins, il l'a avoué lui-même, c'était trop tôt pour venir en Italie à ce moment-là.
Merci messieurs, merci pour les infos. Johan Crochet en Italie, Fred Hermel. On fait un point rapide sur Espagne-Portugal en ce moment, Nicolas Comelli.
Ouais, et toujours 0-0 après 15 minutes de jeu. Un match assez haché, je peux pas m'empêcher de penser à coach Courbis qui détesterait ce genre de rencontre amicale parce qu'il y a beaucoup de fautes et beaucoup plus que de situations pour l'instant.
Très bien, merci Nicolas. Dans une seconde, le quiz de Rotten Régal. À tout de suite.